gagne encore 40 cents à 451,55 $. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, est à la baisse. Il recule maintenant de 0,82% à 3 766 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à 48 heures de la grande kermesse qui va porter Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, une histoire des partis gaullistes.
C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France.
Ans d'histoire. Le général de Gaulle, on vient de l'entendre, n'a jamais voulu reconnaître le clivage gauche-droite et il avait, on le sait, un souverain mépris pour les partis. Si bien qu'aucune des cinq formations politiques qui se sont réclamées de son action ne s'est appelée un parti. Le RPF, le Rassemblement pour la France, l'Union pour la Nouvelle République, l'UNR, l'Union pour la Défense de la République, l'UDR, le Rassemblement pour la République, le RPR, et l'actuel UMP, l'Union pour un Mouvement Populaire, avaient pour mission, comme leur nom l'indique, de rassembler ou d'unir les Français derrière un homme, le général de Gaulle, puis Georges Pompidou et Jacques Chirac. Mais qu'y a-t-il de commun entre l'actuel UMP et le rassemblement auquel le général de Gaulle appelait les Français en 1947?
Il est temps que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français.
Ici Marseille, les premières assises nationales du rassemblement du peuple français viennent de s'y terminer. Et c'est à Monsieur Jacques Soustelle que nous demandons de bien vouloir tirer les premières conclusions de ce premier grand congrès.
On voyait s'exprimer des opinions provenant, comme l'on dit, d'horizons très différents. Il y avait là des hommes dont la pensée portait le sceau de la tradition radicale ou de la tradition démocrate chrétienne ou de la tradition socialiste ou de la tradition modérée. Et je crois que la leçon de ce congrès, c'est que nous y avons pensé beaucoup moins nous-mêmes au RPF comme un parti qu'à la France que nous voulons servir.
Serge Berstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et auteur d'un livre sur le gaullisme où l'on retrouve bien sûr toutes les organisations qui s'en réclament depuis 1947. La première d'entre elles étant, on vient de l'entendre, le RPF, le Rassemblement pour la France, dont le secrétaire général était à l'époque Jacques Soustelle, que l'on vient d'entendre. Comment et pourquoi, Serge Berstein, un homme comme De Gaulle, qui ne cachait pas son aversion pour les partis politiques, a-t-il décidé de créer le sien en 1947?
Alors, la première réponse, évidemment, c'est que le général De Gaulle s'est aperçu à ses dépens qu'en régime de démocratie parlementaire, si ce qui est le cas du système politique qui s'est créé sous la 4e République, si on n'est pas représenté au Parlement par un parti, on n'a pas d'existence politique. Et le général de Gaulle, dès l'époque d'ailleurs des assemblées constituantes, en 1945 et 1946, a été impuissant à faire valoir ses vues sur le système institutionnel de la France, parce que aucun parti ne le soutenait, là où les choses se décidaient, c'est-à-dire au Parlement.
Donc il crée le RPF, en fait c'est un instrument de reconquête, de retour au pouvoir. Il avait quitté le pouvoir en mars 46, il fallait y revenir et mettre en place de nouvelles institutions, ce qu'il fera d'ailleurs en 50.
C'est ça. Mais il entend ne pas créer un parti, puisque lui s'est toujours voulu au-dessus des partis.
Donc il appelle ça un rassemblement.
Il appelle ça un rassemblement, et ce rassemblement, il veut qu'il ne soit ni de droite ni de gauche, comme il le dit lui-même, mais qu'il rassemble toute la France, le rassemblement du peuple français. C'est le peuple français tout entier qu'il entend représenter. Alors, dans la réalité des choses, le spectacle est un peu différent, puisqu'il est clair que parmi les groupes dont parlait Jacques Soustel, certains sont fortement constitués en partis. C'est le cas de la démocratie chrétienne, c'est le cas du Parti socialiste, c'est même le cas, à la limite, du Parti radical. Et par conséquent, le seul espace politique dont va bénéficier le général de Gaulle, c'est celui de la droite qui, elle, est désorganisée depuis la Libération. Et par la force des choses, c'est à droite que va se situer le centre de gravité de ce rassemblement du peuple français.
Avec beaucoup de succès, il faut rappeler que dès sa création, il gagne largement les premières élections auxquelles il participe, les municipales de 47. Il a, ou en tout cas, il affiche 1,5 million d'adhérents, qui s'appelle d'ailleurs, c'est assez drôle, l'espèce de compagnonnage qui existait à l'époque, genre du RPF. Il s'appelait des compagnons, c'est un peu l'équivalent gaulliste des camarades communistes, Serge Bachetin. Alors c'est un parti très hétéroclite malgré tout, et du même coup assez fragile parce que, au fond, De Gaulle lui-même ne parviendra pas à maintenir son autorité. En 52, ce parti n'a pas assez de députés pour peser sur le régime, sur la 4e République, et certains se décident à soutenir Antoine Pinay en 52, en espérant entrer dans son gouvernement. Ils vont à la soupe, dit-il. Enfin bref, le parti, le RPF éclate, et De Gaulle s'en détache très vite à ce moment-là.
Oui, parce que le RPF, dans la conception du général De Gaulle, ça n'était pas un parti qui était fait pour jouer un rôle au Parlement, au sein des institutions de la 4e République. C'était un parti dont l'objet était de paralyser le système politique pour contraindre la 4e République à se dissoudre et à organiser de nouvelles élections qui permettraient de créer de nouvelles institutions. Or, il a demandé l'impossible aux parlementaires élus au titre du RPF, c'est-à-dire d'assister les bras croisés aux décisions qui concernent l'avenir de la France au sein de l'Assemblée. Et le parlementarisme a conquis le RPF, alors que dans l'esprit du général de Gaulle, c'est le contraire qui aurait dû se produire.
Alors de Gaulle entame alors une traversée du désert qui a duré 6 ans, jusqu'à ce qu'en 1958, il revienne au pouvoir à la faveur d'une crise en Algérie. Le 13 mai, il met en place une nouvelle République et crée pour le soutenir un nouveau RPF, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, dont un des fondateurs était encore Jacques Soustel, que l'on entend quelques semaines après la création de l'UNR en novembre 1958.
À cette République nouvelle, le pays a voulu donner des hommes nouveaux, d'une part, mais aussi, je le crois, un mouvement politique nouveau qui se situe au centre de l'Assemblée, ce grand parti qui évitera les chocs trop violents entre la droite et la gauche et qui assurera une stabilité gouvernementale dans le sillage de l'œuvre qu'a entrepris le général de Gaulle. Je crois que nos méthodes de propagande, un vocabulaire un peu différent, ont permis à l'UNR de franchir la rampe et de s'imposer à l'attention publique, non pas, je le répète, comme un parti gaulliste que nous ne sommes pas, mais comme un parti qui assurera toujours le général de Gaulle de son soutien loyal et fidèle.
Et c'était donc Jacques Soustel, je crois, en 58. Hein. C'est assez étonnant, ces paroles de Jacques Soustel. D'abord parce que c'est Jacques Soustel. Il faut rappeler qu'il deviendra très vite un adversaire acharné du général de Gaulle, dont il va désapprouver la politique algérienne. Mais surtout parce qu'il dit des choses qui peuvent nous surprendre quand même. D'abord, on l'a entendu, il parle de l'UNR, ce nouveau parti qui vient de se créer, qui va tout de suite d'ailleurs remporter un succès important législatif. Et il en parle comme d'un parti qui n'est ni de gauche ni de droite, mais du centre.
Alors, d'abord, il faut dire que tout ce discours de Soustel s'éclaire par le fait que son ambition à ce moment-là, c'est d'être, ce qu'il ne sera jamais, parce que De Gaulle s'y opposera, le président de l'UNR. Le général de Gaulle, qui est à l'époque président du Conseil, qui va devenir président de la République, ne sera jamais, à la différence de ce qui était le cas pour le Rassemblement du Peuple Français, le président de l'UNR. Mais il n'y aura pas de président à l'UNR, parce que le président, le trône du souverain est en quelque sorte vide, le président est à Matignon d'abord, à l'Élysée ensuite. Bon, L'idée que l'UNR est un parti du centre est évidemment une idée qu'aucun historien ne peut admettre, même s'il y a effectivement des individualités issues de la démocratie chrétienne, voire issues de partis de modérés ou radicaux des républiques antérieures. Mais là encore, l'espace politique est clairement à droite. Alors, et puis il y a cette idée que ça n'est pas un parti gaulliste.
Voilà, ça,
et là,
c'est ça
évidemment totalement faux.
Oui, oui.
Parce que ça n'est ni la propagande, ni les hommes nouveaux, ni le langage nouveau qui explique le succès de l'UNR, mais les gens ont tout simplement voté De Gaulle.
Oui, mais Serge Dostal, vous le dites vous-même dans votre livre, De Gaulle avait refusé que l'on parle en son nom et même au nom du gaullisme.
Tout à fait. Et il s'est théoriquement, je dis bien théoriquement, désintéressé de la création de l'UNR, sauf que on sait que c'est dans les bureaux de Matignon que ses collaborateurs ont élaboré l'UNR. Donc c'est un parti gaulliste qui ne veut pas l'être et dont le chef feint d'ignorer jusqu'à l'existence, mais dans la réalité, c'est la dernière phrase de Soustel qui est la seule qui compte, la seule raison d'être de l'UNR,
c'est
d'être fidèle au général de Gaulle et de le soutenir.
Même si Soustel et d'autres, d'ailleurs, il va éclater ce parti, il y a une petite minorité qui va s'en aller parce qu'elle était Algérie française. Il y a Léon Delbecq qui était un des artisans du retour du général de Gaulle au pouvoir qui s'en va, Soustel s'en va. Mais enfin, le parti, le mouvement, l'Union pour la Nouvelle République demeure. Elle va obtenir un certain nombre de succès. C'est pas un parti de masse, vous le rappelez. Il ne revendique pas un grand nombre d'adhérents.
Il ne cherche pas à être se veut un parti de notables parlant au nom du général de Gaulle. Et à dire vrai, on a vu lors des élections de 58 que des notables extrêmement bien implantés dans leur circonscription, mais hostiles au général de Gaulle, je pense à Pierre Mendès-France à Louviers, sont battus par de quasi-inconnus uniquement parce que ceux-ci se réclament du général de Gaulle.
Alors, il dispose d'une majorité assez vite, d'abord avec les centristes, et puis même, ça va aller en s'amplifiant. En juin 1968, juste après les événements de mai, l'UNR, qui devient d'ailleurs l'UDR, hein, Union pour la Défense de la République, on est juste au lendemain de 68, a la majorité absolue au Parlement, mais un an plus tard, l'UDR va perdre son chef naturel, le général de Gaulle, en 1969, à la suite d'un référendum sur le Sénat et les régions, pendant lequel 53% des Français avaient voté non, malgré le soutien qu'apportait une fois de plus André Malraux au général de Gaulle.
Il y a aussi ceux qui parlent d'après-gaullisme. Il est grand temps de comprendre qu'il n'y a pas d'après-gaullisme contre le général de Gaulle. Il s'agit, je le répète, du destin de la France. Et aucun gaulliste d'avant-hier, d'hier ou de demain ne pourrait maintenir la France appuyée sur des noms qui auraient écarté le général de Gaulle.
C'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. Ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais, le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, les partis gaullistes et cet homme légendaire que chantait Béco, c'était évidemment le général de Gaulle. Le général de Gaulle, donc, qui est désavoué par les Français, par le référendum de 69, qui s'en va. Et ce qui provoque, Serge Berstein, une situation tout à fait nouvelle, une question nouvelle, celle de l'après-gaullisme.
Oui, alors cette idée de l'après-gaullisme, elle se posait depuis longtemps. Lors d'une consultation électorale, le général de Gaulle avait, en gros, signifier aux Français que, lui écarté, la France reviendrait au chaos de la 4e République. Et il est vrai que l'idée prévaut que de nombreuses consultations électorales gagnées par le général de Gaulle l'ont été par crainte du chaos au cas de sa disparition. Or, en 1969, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que depuis 1967 et les assises de Lille, le patron de l'UDR, c'est Georges Pompidou, alors Premier ministre, qui ne l'est plus évidemment depuis l'été 1968, mais qui reste au fond le véritable chef de la majorité gaulliste au Parlement.
Et qui, devient président de la République.
Et qui va devenir président de la République. Et l'une des explications du vote négatif de 69 envers de Gaulle, c'est l'idée que s'il s'en va, il n'y aura pas de chaos, puisqu'il a un successeur, même si lui-même ne l'a pas désigné.
Et l'UDR reste au fond le parti du président, puisqu'une fois de Gaulle parti, c'est Georges Pompidou, au fond, dont qui est soutenu à l'Assemblée nationale par l'UDR. Ça se fait assez difficilement, on n'a pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails. En revanche, en 74, situation nouvelle, à nouveau si je puis dire, mort de Georges Pompidou, élection de Valéry Giscard d'Estaing qui, lui, n'est pas gaulliste, et là, l'UDR, le troisième parti gaulliste, n'est plus celui du président.
Tout à fait. Et il se pose d'ailleurs la question, puisqu'après tout, Valéry Giscard d'Estaing a battu le candidat gaulliste, Jacques Chaban-Delmas, au présidentiel, de savoir si l'UDR ne va pas devenir un parti d'opposition. Et c'est d'ailleurs la grande crainte de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est une des raisons pour lesquelles il nomme Premier ministre, non pas une des personnalités en vue de l'UDR, mais une sorte de second rôle, qui est Jacques Chirac, qu'il nomme Premier ministre, il l'a aidé à devenir président de la République, et avec pour mission de domestiquer l'UDR et de le ranger derrière le nouveau président de la République, de faire jouer en quelque sorte la légitimité selon laquelle le parti gaulliste est le parti du président, même si ce président n'est plus lui-même gaulliste.
Alors, le parti gaulliste devient aussi celui de Jacques Chirac en 1974. Hein. Désormais, d'ailleurs, l'UDR n'est plus destiné à être systématiquement, à soutenir systématiquement le président de la République, puisque c'est Valéry Giscard d'Estaing, mais à soutenir son candidat à l'élection présidentielle qui doit suivre, en fait, c'est ça.
Tout à fait. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'UDR finissante des années 74-76, puis le RPR qui lui succédera, se retrouve dans la situation qui était celle du RPF en 1947, amener son chef à l'Élysée, le ramener au pouvoir, et par conséquent, c'est une des deux fonctions, au fond, des partis gaullistes, que joue désormais le parti que domine Jacques Chirac, et dont le nom va changer en 76.
Effectivement, il change en 76, hein, lorsque Jacques Chirac transforme l'UDR en RPR, à la suite d'un appel, justement, à Égletons, qu'il fait en octobre 76, appelant les Français à se rassembler derrière lui.
Je m'adresse à tous les Français, sans exclusive aucune, pour que se constitue le vaste rassemblement populaire que la France a toujours su tirer de ses profondeurs lorsque le destin paraît hésiter, par vous, autour de vous, au-delà de vous. Nous allons essayer de créer le rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui cherchent avec obstination à se faire entendre et qui aspirent à plus de justice, à plus de bonheur, sans pour autant renier les principes auxquels ils sont attachés.
Pour l'élection du président du Rassemblement pour la République, Jacques Chirac, 96,56% des voix.
Et c'était donc Jacques Chirac élu en 1976 président du RPR, à défaut d'être président de la République, ce qu'il souhaite bien sûr devenir. À quoi correspond cette transformation de l'UDR en RPR? Est-ce que c'est un simple changement de nom, Serge Barstein?
Alors, ça n'est pas un simple changement de nom, en partie parce que Jacques Chirac a été, depuis 1974 et son choix pour Valéry Giscard d'Estaing, très contesté par ceux que l'on appelle les barons du gaullisme, c'est-à-dire les personnalités dominante de l'UDR, des gens comme Michel Debré, comme Olivier Guichard, qui au fond n'acceptent pas du tout la primauté et la présidence de ce jeune homme qui, estime-t-il, a trahi l'idéal gaulliste en choisissant Valéry Giscard d'Estaing.
Il faut rappeler peut-être, ça c'est un point de détail, mais il est sacrément important, Serge Barstein, ce qui s'est passé en 74. En 74, le candidat de l'UDR était a priori Jacques Chaban-Delmas. Ensuite, on a envisagé une solution avec Pierre Messmer, et c'est avec une quarantaine de députés de l'UDR que Jacques Chirac avait lancé, avait demandé, enfin avait soutenu la candidature de Valéry Giscard d'Estaing.
C'est ça.
Bon, alors c'est évidemment
donc, c'est considéré comme un traître, oui. Par les gaullistes de tradition. Et l'un des éléments qui compte pour le RPR, c'est évidemment que dans la direction, ces barons du gaullisme vont perdre leur poids et que pour ce qui concerne les fonctions de direction locale des fédérations, Jacques Chirac exigera que ce soit de nouveaux venus, de nouveaux adhérents qui accèdent à ces fonctions, de manière à ce que les vieilles fidélités des gaullistes de tradition dont certains remontent à la résistance ne remettent pas en cause sa primauté sur ce parti.
Au fond, il crée un parti à sa mesure.
Dans
la perspective, bien sûr, des élections présidentielles, la première étant celle de 1980, puis il y aura 88, et là, son échec en 1988 est à l'origine d'une fronde à l'intérieur même du RPR, son propre parti, un peu comme De Gaulle du temps du RPF, il n'arrive même plus à le contrôler.
C'est ça. Mais là, c'est pire. C'est pire parce qu'au fond, à l'époque du RPF, De Gaulle est assez grand pour vivre sans le RPR. Ça n'est plus exactement le cas de Jacques Chirac s'il perd le parti qu'il vient de créer. Et par conséquent, il va y avoir désormais, et ce ne sera pas le seul échec, ni la seule fronde, une opposition interne à l'intérieur du RPR de gens qui estiment que Chirac les conduit de défaite en défaite et que par conséquent, si on veut préserver la pérennité du mouvement, si les députés souhaitent être réélus, c'est une donnée qu'il ne faut pas négliger, eh bien, il faut se tourner vers des hommes capables de gagner et non pas de perdre comme Chirac l'a fait à plusieurs reprises.
Et puis des jeunes, hein, pour beaucoup d'entre eux, il faut rappeler leur nom, il y a Philippe Séguin.
C'est la fameuse génération des cadras,
oui.
Qui conteste un homme politique qui, sans avoir à l'époque encore accédé au niveau suprême, leur paraît déjà usé.
Et puis il y aura la contestation majeure en 1994-95, c'est évidemment Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy, hein, bien entendu, Édouard Balladur qui pose sa candidature, un sacrilège bien sûr au sein du RPR, contre Jacques Chirac, qui est malgré tout élu en 1995 et qui évidemment remet un peu de l'ordre dans la maison, Serge Lachelle.
Oui, alors la grosse différence, et elle est intéressante, c'est qu'en 1995, au fond, Balladur prend une position quasi-gaullienne, c'est-à-dire qu'il se présente sans l'appui du parti dont il est issu, mais fort de son bilan, ou de ce qu'il estime être son bilan, à la tête du gouvernement. Et on s'aperçoit à ce moment-là que ça ne marche pas si le parti politique n'est pas derrière le candidat pour le soutenir et le porter jusqu'à l'Élysée, et Balladur échoue. Et par conséquent, ça nous conduit à une réflexion sur la manière dont le général de Gaulle avait envisagé l'élection présidentielle, une élection d'un homme au-dessus des partis, qui ne se réclame pas des partis. Depuis longtemps, ça n'est plus vrai. Si on n'a pas un grand parti derrière soi, on n'accède pas à l'Élysée.
Alors le parti, en l'occurrence à l'époque gaulliste, c'est le RPR, et Jacques Chirac décide d'en changer le nom à nouveau. Entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002, le RPR est appelé à devenir l'UMP, à l'époque Union pour la majorité présidentielle, dernier avatar des mouvements que Jacques Chirac et Alain Juppé considèrent encore comme gaullistes. France Inter, Philippe Habitboul, le 21 septembre 2002.
France Inter.
5 décembre 1976, 21 septembre 2002, le RPR a vécu. L'UMP va reprendre le flambeau gaulliste et Jacques Chirac a quand même donné de la voix, un message vidéo que les cadres gaullistes ont découvert cet après-midi.
Avec bonheur, avec fierté, vous avez été des militants gaullistes. Mes chers compagnons, je vous demande de le rester.
Jacques Chirac a besoin des gaullistes et les gaullistes ont besoin de Jacques Chirac, assure en chérie Alain Juppé qui d'ores et déjà pense à l'avenir et au rôle qu'il pourrait jouer dans la nouvelle formation.
Je voudrais prendre ici devant vous l'engagement solennel que dans cette future formation, l'idéal gaulliste sera respecté.
Alors justement, est-ce qu'il l'est, c'était en 2002, c'était la création de l'UMP, Serge Blachetin, est-ce que l'idéal gaulliste est encore respecté à l'UMP?
Ça exigerait d'abord qu'on définisse l'idéal gaulliste. Si on admet que c'est la volonté d'assurer la grandeur et l'indépendance de la France grâce à un gouvernement fort dont le président de la République est le clé de voûte et entraînant derrière lui le peuple rassemblé, À l'évidence, non. À l'évidence, non.
D'autre part, c'est une union de la droite avec des centristes.
Voilà, c'est une union de la droite avec des centristes.
Ça n'a jamais été le cas dans le passé.
Absolument. Et c'est d'ailleurs conçu pour être un parti unique de la droite et non plus ce vaste rassemblement sans rivage qu'avaient été les autres partis gaullistes. Et puis, ça n'est plus vraiment le gaullisme, d'abord parce que les circonstances ont changé, que le monde de 2004 n'est plus celui de 1947, de 58 ou d'ailleurs de 76, et que, par exemple, le ralliement des dirigeants gaullistes à l'idée européenne oblige tout au moins à nuancer l'idée de la grandeur de la France et de son affirmation, et l'acceptation, par exemple, de la cohabitation, voire même le quinquennat, qui change la signification de la présidence de la République, n'apparaissent plus comme étant liés à l'héritage gaulliste.
Et puis c'est même plus le parti du président, tout de même. Après-demain, il y a un adversaire, il faut bien le dire, du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va prendre la tête de l'UMP.
Tout à fait. Et c'est d'autant plus, stupéfiant que, au sein de ce parti qui se veut encore gaulliste, eh bien, le nouveau chef de ce parti qui sera intronisé après-demain se veut un futur candidat à l'élection présidentielle grâce au parti dont il vient de prendre la tête et sans savoir au fond si l'actuel locataire de l'Élysée souhaite ou non prononcer son bail.
Merci Serge Berchtat de nous avoir rappelé donc ces cinq grandes formations qui se sont réclamées à plus ou moins juste titre du gaullisme. On les retrouve dans votre histoire du gaullisme qui a été rééditée en poche chez Perrin dans les collections Timpus. Et puis plus récemment, vous avez également participé au deuxième volume de l'histoire des gauches en France dirigé par Jean-Jacques Becker et Gilles Candard, qui vient de sortir aux éditions de La Découverte, et à propos duquel, ce livre, nous aurons le plaisir de vous recevoir le mercredi 8 décembre prochain pour nous parler d'un des plus grands partis de l'histoire de France dans le passé, hein, qui est tout petit aujourd'hui, le Parti Radical. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 3230, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique, Edwin Caron, Benjamin de la Gâtinais, documentation, archives sonores, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Amélie Briand et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Comilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, l'affaire Dominici, 50 ans après. Mardi, un envahisseur qui a terrorisé l'Europe il y a 1500 ans, le roi des Huns, Attila. Mercredi, les pierres précieuses. Jeudi 2 décembre, 200 ans après, jour pour jour, le sacre de Napoléon. Enfin, vendredi, un des plus grands explorateurs de l'histoire, James